Radio Campus, il est 23h.
Cinquième balle de match, les Hélas, c'est celle-là qui compte. L'équipe de France est double champion olympique. Oh, le truc délirant.
Le Campus Sport Club, tous les mardis soirs, 23h minuit, sur Radio Campus Lille.
Hey yo tout le monde, c'est Adrien Fedeli. On se retrouve pour une nouvelle émission du Campus Sport Club sur Radio Campus Lille. Oui, vous êtes bien sur votre petite radio régionale 106,6. Très heureux de vous avoir à l'antenne pour cette nouvelle heure à parler sport jusque minuit pétante. Bien sûr, on revient ensemble sur l'actualité avec deux compères ce soir. Il y a le taulier maintenant de cette fin de saison, l'habitué, c'est Monsieur Matuidi, trois poumons. Baptiste, à ma droite, comment tu vas, petit Baptiste ?
Quel honneur.
Ah, attends, Coco. Ah oui.
Honneur tu me fais. J'allais dire, on m'entendait pas.
Et non,
quel honneur tu me fais, là. C'est quoi cette... C'est magnifique. Bah, du coup, je m'appelle Matuidi, maintenant, c'est un honneur.
J'allais dire, c'est pas trop une insulte, ça va. Hein.
Ah, moi, j'adore
contraire,
ce joueur.
Blaise Matuidi, pour ceux qui ne l'ont pas.
Oui. Oui, bien sûr. Et très heureux avec un petit nouveau en cette fin de saison. Je te laisse le présenter, bien sûr, parce que ouais. Ça va pas être à moi de le faire.
Oui, mais c'est quand même ton padawan.
Oui, c'est mon jeune padawan, en espérant qu'il évolue et qu'il me dépasse peut-être un jour, peut-être pas.
Peut-être. On verra Obi-Wan, on verra. Charlie qui est avec nous ce soir pour former un trio de choc. Comment tu vas, Charlie, pour ta première dans le
CES? Ça va super, on est content d'être ici, on a hâte de commencer et puis... On espère vous accompagner un peu plus longtemps encore.
Ouais, t'as vu déjà. Hein.
Ah, il tease bien.
Il a envie.
Il tease bien.
Il veut négocier tout de suite.
Ouais.
C'est en fin de saison, là, c'est les fins de saison, c'est le moment des négociations de contrat dans le CSC, si tu sais pas trop.
Ouais,
il y a d'autres chroniqueurs qui m'ont tendu des perches, ils m'ont dit, tu sais, voilà, peut-être la saison prochaine, je sais pas. Je suis intéressé par d'autres radios du coin.
Je sais pas la saison prochaine.
Ah, je sais pas trop. Donc, mais du coup, c'est le running gag de cette fin de saison.
Ouais.
Voilà. J'ai pas encore eu d'intimidation de, tu sais, il y a Métropolis, il y a Horizon FM qui m'ont appelé, il y a Delta qui est sur le coup. Personne m'a encore trop menacé avec d'autres concurrents, il y a RTL qui est sur le coup, tu vois. Bon, ça devrait aller. Ça devrait aller. Mais nous, on est bien sur Radio Campus Lille, on va pouvoir attaquer. Comme tous les mardis soirs, cette émission, on va revenir sur l'actualité, bien évidemment, pendant une heure, avec, pour commencer, les traditionnels résultats. Victoire, défaite, sacre ou désillusion, on revient tout de suite sur les résultats de la semaine dans le CSC. On sent un tout petit peu la différence de voix entre mon jingle enregistré il y a quelque temps et là je suis un peu pris du nez. Je m'entends là.
Ça fait une voix hyper grave et une belle voix.
Là
Tu peux faire peur à tout le monde.
Oui, je peux poser un petit peu les graves. Écoutez... bien sûr, maintenant je vais essayer d'être gentil quand même.
Oui.
Et puis surtout qu'on me comprenne, mais il ne faut pas hésiter. Pour commencer ces résultats, ça va faire un peu plaisir à Baptiste. On va démarrer avec du vélo, avec du cyclisme.
J'aime bien ça.
Il y a eu des immenses événements ce week-end. Oui, mais il y a quand même des choses qui se sont passées aujourd'hui. On va quand même revenir sur l'actualité d'abord avec Ce dimanche, s'était lancée la 77e édition du Critérium du Dauphiné, la célèbre course à étapes des Alpes françaises qui sert un peu de répétition pour le Tour de France, pour les cadors surtout et leaders des équipes, mais aussi et surtout cette année le glas de la carrière du Français Romain Bardet, alors que l'Espagnol Ivan Romeo de l'équipe Movistar a surpris tout le monde dans le final de la troisième étape ce mardi et partira demain avec le maillot jaune de leader. La vraie star au départ de Brioude, c'était bien Bardet, le natif de la commune. D'ailleurs, hier, sur la deuxième étape, le Français de 34 ans a fait tout son possible pour déjouer les pronostics sur un tracé très plat et optimisé pour un final au sprint. Lui, qui rêvait de se présenter ce matin avec le jaune sur le dos, a fait un bout de chemin en solitaire en fin d'étape, a finalement été bien naturellement repris par le peloton. C'était la victoire au sprint d'un certain Jonathan Milan, je ne sais jamais si il faut le dire en français. On dit Milan, c'est un italien. Voilà, sinon, Milan, ça sera un peu bizarre. En tout cas, il a essayé de faire du spectacle pour sa dernière course en carrière. Ce n'est même pas de l'année, c'est bien sûr en carrière. Le Romain Bardet qui s'arrêtera, qui tirera un trait avec le cyclisme à la fin de ce critérium du Dauphiné. On a eu également un final spectaculaire dimanche sur la première étape avec une photo finish digne des plus prestigieuses de l'histoire du deux roues, à mon humble avis. On a, dans un sprint entre cadors, la victoire de Tadej Pogacar qui devance sur la ligne Jonas Vingegaard, son meilleur ennemi sur le tour, et Mathieu Van Der Poel, son meilleur ennemi des monuments, que dire, et le Belge Remco Evenepoel qui signe la quatrième place et qui revient en très grande forme, donc à voir aussi le concurrent. Depuis, Pogacar avait volontairement presque laissé son maillot jaune à Jonathan Milan pour s'éviter aussi tout ce qui était protocole a priori, et sachant qu'il allait bien évidemment plus tard essayer de le reconquérir. Et on aura demain un petit contre-la-montre d'ailleurs de 17,4 km, duquel partira donc Ivan Romeo avec le jaune, mais talonné à 17 secondes par un Français, Louis Barré d'Intermarché Wanty, qui est deuxième à 17 secondes. Très personnellement, je ne le connais pas. Je ne sais pas du tout si l'un de vous...
Pas du tout.
Je ne connais pas très bien la carrière du bonhomme.
De nom, oui, mais la carrière, pas du tout.
Non. Bon, voilà, en tout cas,
peut-être que c'est l'occasion d'en voir un qui se révèle, un petit jeune.
Ouais, je sais pas si sur le chrono il est très bon, donc
je sais pas. Plus Martinez ou Sexas sur le chrono.
Ouais. Côté français en tout cas.
Côté français en tout cas,
ouais, sinon. Il y a un Mathieu Van Der Poel qui reste 5e au général à 29 secondes du leader. Tadej Pogacar est 9e à 1 minute 6 secondes. Voilà, et d'ici dimanche, tout est évidemment possible. On parle des Alpes françaises, c'est toujours très excitant. Un petit tour par le basket à présent, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Il y a l'enjeu en ce moment. On pense bien sûr à nos équipes bleu-blanc-rouge. Je dois même me resserrer de mon téléphone au cas où, pour vérifier quand même les derniers résultats. Il y avait
Monaco
ce soir un match entre Monaco et l'ASVEL. Tu as peut-être... L'un de vous l'a suivi ?
Moi, un petit peu, ouais.
Parce que c'est vrai que c'est pas évident cette année de suivre la Betclic Elite. Il faut avoir les.
Il faut avoir Dazone.
Il faut avoir Dazone. Pour ceux qui suivent la Ligue 1, du coup, ont l'occasion d'avoir Dazone. Donc, tu as pu suivre la rencontre. Tu l'as trouvé dans son ensemble. Je rappelle, du coup, Monaco qui l'a emporté 91-86.
Et ben voilà,
qui a remporté sa série 3 victoires à 1 et qui est donc qualifié en finale. Mérité pour la Roca Team ?
Bah, mérité, oui, parce que Monaco, bien sûr, ils ont beaucoup plus de qualité dans leur effectif. On sait que c'est des équipes qui vont loin dans les compétitions européennes. Maintenant, là, c'est dommage. On aurait pu avoir un Game 5 un petit peu de folie, sachant que là, Lyon, l'ASVEL, Lyon-Villeurbanne, était en train de mener à 9 minutes. Au dernier quart-temps, ils menaient de plus de 6 points. Donc, un petit peu déçu de ne pas avoir ce petit Game 5.
Petit regret.
Ouais. Parce qu'ils ont fait une belle campagne, l'ASVEL, c'est pas rien.
Ouais. Bon, les Monégasques qui avaient eu la bonne idée de prendre le match 2 à la LDLC Arena à Lyon et d'égaliser donc dans la série après avoir perdu le match 1 là-bas. Et ils ont confirmé ensuite le break à la maison samedi soir en l'emportant 74-64 afin de s'offrir à nouveau à domicile une troisième victoire synonyme de finale. Et avant ça, c'est le Paris Basket qui a validé dimanche sur le parquet de Bourg-en-Bresse son ticket en finale de Betclic Elite. Une victoire 103-93 au match 3 après les deux premières signées à domicile mercredi et vendredi. 3-0, contrat largement rempli pour Nadir Ifi et son entraîneur Thiago Splitter, qui défieront donc Monaco en finale à partir de dimanche dans une série au meilleur des 5 matchs tout pareil. Et c'est le remake de ce fait de la finale de l'an passé avec à l'époque quand même une bonne domination de la Roca Team qui avait amplement dominé les Parisiens. Pas certain que le schéma se reproduise cette année, en tout cas dans les mêmes conditions. Bon voilà. Je parlais bien sûr des États-Unis aussi. C'est un poil plus sérieux, par contre, outre-Atlantique. On a déjà démarré les finales NBA. Ça se passe entre le Thunder d'Oklahoma City et les Pacers d'Indiana. Ça tient toutes ses promesses. Battu à domicile à la dernière seconde au match 1, le Thunder a égalisé dans la nuit de lundi à mardi en dominant Tyrese Haliburton et ses partenaires 123-107. Ce même Haliburton, joueur le plus clutch de l'histoire sur une série de playoffs, encore à mon humble avis, mais je pense que statistiquement on n'en est pas loin. L'or était tombé sur la tête en rentrant le shoot de la gagne deux jours plus tôt, toujours à Oklahoma City, à 3 dixièmes du gong, pour un succès 111-110, avant d'être repris donc ce soir, mais de quoi donner un léger avantage, en tout cas avantage du terrain, pour les Pacers qui vont accueillir les deux prochains matchs.
Chez eux.
Chez eux, ils vont accueillir, de ce fait. Mmh. Et... Dans le doute, tu sais, t'accueilles chez quelqu'un d'autre, sait-on jamais. Ouais, j'accueille chez mon voisin, il y a d'autres événements par là-bas. Franchement, vous l'aviez vu venir, ce final clutch du match 1 avec encore Tyrese. Parce que Tyrese Haliburton, j'ai souligné, j'ai sous-entendu le joueur le plus clutch peut-être de l'histoire d'une série de playoffs. Il a déjà été décisif dans les dernières secondes des précédentes séries contre Milwaukee, contre Cleveland, contre les Knicks. C'est quand même fou ce qu'il est capable de faire.
En fait, statistiquement, on peut parler, si tu veux, de joueurs clutch, mais c'est pas un record historique. Justement, si on veut parler de record historique, on devrait plutôt aller du côté d'OKC et parler de Shai Gilgeous-Alexander qui, à la suite du Game 2, justement, il a dépassé Allen Iverson. Je sais pas si ça vous parle.
Oui,
bien sûr.
Pour un public peut-être plus vieux que nous, Allen Iverson, début des années 2000, The Answer, la réponse aux Sixers.
Oui.
Et pour les auditeurs qui jamais s'y retrouvent pas, tu vois.
Et bien justement, c'est quoi, c'est une question?
Non, j'apporte des précisions.
Non, pardon. Non, mais justement, Allen Iverson, il avait en 2001, il me semble, ouais, justement, en finale de NBA, il avait marqué un cumul de 71 points sur les deux premiers matchs. Et à la suite du Game 2 chez Gilgeous, là, il vient de passer devant Allen Iverson, justement, en marquant 72 points. 72 points, donc très intéressant.
C'est beau.
Mais pour en revenir à Tyrese Haliburton, joueur très clutch, il me semble qu'il y a une stat qui dit environ 70% des shoots clutch, justement, en fin de match. Là, il fait gagner un nombre de matchs exceptionnels. Lui qui était, il n'y a pas longtemps, justement, je ne sais pas si vous avez vu la stat...
joueur le plus surcoté.
Joueur le plus surcoté, voilà. Tous les joueurs de NBA ont voté comme si Tyrese... Et là, c'est le revers de la médaille. Et donc, Tyrese Haliburton qui vient fermer des bouches un petit peu avec le respect.
Ça va. On en parlera un peu plus tard dans l'émission de ces finales NBA. On a décidé d'en faire un point débat. Ça sera tout à l'heure. On reviendra là-dessus. Je vais bien sûr passer sur du football. C'était inévitable. On va quand même parler de notre équipe de France avec une quatrième édition de la Ligue des Nations qui s'est achevée ce week-end à Stuttgart et à Munich en Allemagne. Défait par l'Espagne 5-4 d'un côté et par le Portugal 2-1 de l'autre. La France et l'Allemagne se sont retrouvés dimanche après-midi à Stuttgart pour la petite finale, le match pour le bronze. Les Bleus l'ont emporté 2-0 et ont ainsi terminé la troisième place de cette Ligue des Nations. Le gardien Mike Maignan s'est illustré plus d'une fois en première période pour maintenir à flot le navire tricolore face aux grosses occasions, pour le coup, de la Nationalmannschaft. L'équipe d'Allemagne a pensé se procurer un pénalty et inscrire l'ouverture du score avant la mi-temps, mais deux faits de jeu revus et corrigés par la VAR. Une aubaine pour le capitaine français Kylian Mbappé, qui, dans le même temps additionnel de cette première période, en a profité pour ouvrir le score avant de profiter d'un contre très favorable, pour le coup, une grosse mésentente de la défense, de partir en contre-attaque et de servir face au gardien Michael Olise, qui n'avait plus qu'à la pousser dans le but vide. Donc nos Français qui terminent troisième, mais le soir même, plus intéressant encore, c'était la finale à l'Allianz Arena entre l'Espagne tenant du titre et le champion inaugural, le Portugal, entre le joyau de 17 ans, Lamine Yamal, si je puis dire, et la légende et le vétéran Cristiano Ronaldo, 40 ans. Alors, on a très peu vu le premier. Le second s'est illustré en égalisant à deux partout en seconde période pour la CSAO. Un match très disputé, poussé en prolongation, puis jusqu'au tir au but ensuite. La séance qui a souri au Portugais du Parisien Nuno Mendes, buteur étincelant même tout au long de la rencontre pour offrir au pays ibérique son deuxième titre et un troisième trophée avec l'Euro 2016. C'est quand même costaud, cette histoire.
Ouais. Ouais, comme tu l'as dit, exceptionnel. Comme tu l'as dit, il y en a un qu'on a très peu vu, c'est Lamine Yamal qui était attendu, et Nuno Mendes... Il a été exceptionnel.
Bah, j'ai vu que Nuno Mendes avait été élu MVP du Final Four.
Ouais. C'est pas étonnant.
Parce que déjà contre l'Allemagne. Hein,
moi, il y a une image qui m'a marqué. C'est Ronaldo qui est devant Lamine Yamal et qui fait ça. Mm. Enfin, qui dit, là je le mime, mais du oui, coup, qui met un doigt devant sa bouche en faisant, en gros, chute, quoi.
En faisant taire des bouches.
En faisant taire des bouches. Et moi, ça monte tellement la carrière du joueur et le prestige du joueur. Et qui dit quand même, attention petit, calme-toi, c'est... j'ai quand même la carrière devant moi, là. C'est...
Même si le but est un peu, comment dire, il se le procure pas tout seul, enfin, il est un peu avantagé, mais ça reste un but en finale de Cristiano Ronaldo. Mmh. Faudrait voir
il va quand même le chercher.
Faudrait quand même voir quel est le premier but qu'il a inscrit lors d'une finale, qu'importe la compétition. Mm. Je pense que tu dois remonter à ses 17-18 ans. C'est-à-dire que 22 ans plus tard, il inscrit encore des buts en finale. Mm. Il est fort, le bonhomme.
Il est très, exceptionnel. Très fort.
Très fort. Très, très fort. Un peu de rugby. Maintenant, suite et fin du dénouement du top 14, le championnat de France a livré samedi soir sa 26e et dernière journée de saison régulière. J'ai dit saison régulière, je ne sais pas si on parle de saison régulière en tout cas. Une soirée riche en émotions et en sensations, avec des fins heureuses et un peu moins glorieuses pour certaines équipes. Avec une rencontre plus que déterminante d'un côté et de l'autre du classement, entre l'Union Bordeaux-Bègles et Vannes, l'UBB, championne d'Europe, a d'abord buté sur de valeureux Vannetais avant de donner un sacré coup d'accélérateur en seconde période. Victoire 59-28 des Bordeaux-Bègles, qui leur permet d'assurer la deuxième place au classement et la qualification directe en demi-finale du top 14, mais qui condamne Vannes, dernier et relégué en Pro D2. Une situation qui a fait le bonheur de Perpignan, tombeur du leader Toulouse à domicile 42-35, après une impressionnante et renversante seconde période pour l'USAP cette fois. Barragiste, elle échoue à un petit point du Stade français, vainqueur de Castres 21-10 au Stade Jean Bouin, qui lui permet donc de se maintenir quant à lui en top 14 au bout du suspense. Enfin, dans la course au top 6 et au play-off, l'Aviron bayonnais a assuré sa quatrième place derrière Toulon en battant ce dernier 18-10. Clermont a profité de la défaite du Castres olympique pour s'emparer de la cinquième place sur le gong, des Castrés qui ont eu quand même chaud aux fesses, mais qui sont bien les derniers qualifiés en play-off, sixième de l'exercice, pour un point d'avance sur La Rochelle battue par Pau 32-18. Un peu de handball, parce que ça concerne un peu la région et ça me touche, c'est mon sport de cœur, le handball. Il y a eu du stress et aussi du suspense du côté du handball féminin. La Ligue féminine a connu un sacré épilogue, c'était dimanche après-midi. Entre là aussi, lutte pour le maintien et adieu plein de tendresse pour des légendes du handball féminin. Malheureusement pour la région, c'est à la fois Saint-Amand-les-Eaux et l'Entente Sambre-Avesnois qui étaient sur la sellette à ce moment-là de la saison. Et ça sera une saison de plus finalement pour Saint-Amand qui se maintient, qu'il a accroché dans la douleur à domicile en battant la Stella Saint-Maur à domicile, succès 24-21, qui mettait en péril la formation francilienne, elle aussi doucement au bord du gouffre. Mais c'est bien la Stella qui peut sourire car de son côté, Sambre-Avesnois a perdu à domicile 26-32 contre Toulon, expédiant donc les promus sambriennes de nouveau vers la deuxième division. À un autre niveau et dans une toute autre ambiance, c'est du côté du Metz Handball, déjà champion, a plus que fêté son titre à domicile contre Nice. Outre la victoire 37-26, les Messines ont surtout profité du moment pour célébrer deux immenses joueuses, puisque Alison Pinault et Cléopâtre Darleux, 35 ans chacune, ont joué leur dernier match en professionnel. Les championnes du monde 2017 et championnes olympiques 2020 ont soulevé respectivement leur deuxième et quatrième titre de championne de France. Bravo mesdames. Un peu quand même. Il faut quand même qu'on y arrive. Il y a un petit peu de temps là-dessus à dire du tennis. Nous n'avons pas 5h29 au Campus Sport Club pour vous raconter Roland-Garros, même si on l'aimerait tant cette édition a connu un final aussi intense qu'époustouflant. Samedi et dimanche, c'est conclu en apothéose la 124e édition des Internationaux de France. La terre battue parisienne a rendu un verdict aussi fou que magistral. Deux chocs au sommet, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes en simple, entre numéro 1 et numéro 2 mondiaux. Les montagnes russes des sensations fortes ont débuté avant même le week-end. D'ailleurs, petit clin d'œil grâce au parcours de l'incroyable Loïs Boisson, 361e mondial à l'entame du tournoi et désormais numéro 1 française et 65e mondial, 296 places gagnées. C'est fort, c'est très très fort. Boisson, vainqueur coup sur coup des numéros 3 et 6 mondial, sera tombé avec les honneurs en demi-finale contre l'américaine Coco Gauff, numéro 2 mondial, qui était en mission, qui était autour d'une très belle saison sur terre battue. Et ça n'a pas manqué. Puisque l'avantage pour elle, c'est que son bourreau et triple tenant du titre, Iga Swiatek, était tombé en demi-finale contre Arina Sabalenka. Il y avait champ libre. Et contre la Bélarusse, l'américaine a flanché la première, a perdu le premier set au tie-break. Mais comme pour son premier titre du Grand Slam à l'US Open 2023, c'était déjà contre Sabalenka. L'américaine a renversé la situation et gagné un duel psychologique et physique, 6-7, 6-2, 6-4 pour le score exact. Un premier grand spectacle avant un second étouffant, magistral, il y a beaucoup trop de superlatifs le lendemain en tout cas, dimanche, 15h28, coup d'envoi de la finale du simple homme entre Yannick Sinner, numéro 1 mondial, et Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial et tenant du titre. Prêt à marcher dans les pas de son modèle Rafael Nadal, on était loin de s'imaginer que cette confrontation irait jusqu'au 5e set, 5h29 de jeu plus tard. Un super tie-break pour la joie incommensurable d'Alcaraz, toujours invaincu en finale de Grand Chelem pour son 5e titre, devenant le 2e plus jeune joueur de l'histoire de l'Air Open derrière Björn Borg à atteindre ce cap. Et à la fois l'immense déception de Yannick Sinner qui aura manqué 3 balles de match dans le 4e set à 5-3 sur le service de l'Espagnol avant de s'incliner 6-4, 7-6, 4-6, 6-7, 6-7. C'est fou quand même.
Ouais, énorme, énorme cette finale.
Vous l'aviez regardé ? Vous étiez devant ?
Ouais. Pas tout, mais surtout la fin.
Donc, c'est difficile de. Je pense que à partir de n'importe quel moment auquel tu arrives dans la finale, tu as du mal à décrocher de la finale.
Ouais, ouais, c'est ça. Puis à la fois, tu dis on peut pas s'attendre à un tel match en 5-7, mais à la fois quand tu regardes le calibre des deux joueurs, tu peux pas te dire que l'un va rouler sur l'autre en fait. Tu peux rien t'attendre, et c'est pour ça que même quand Sinner a 3 balles de match sur le service d'Alcaraz, qu'il y a un moment où on se dit vraiment c'est terminé? Personne ne le sait, et c'était vraiment exceptionnel à suivre, et j'espère que les auditeurs ont regardé ça parce que c'était un moment de sport magique.
En tout cas, on vous invite, alors peut-être pas à revoir en replay, 5h29,
non,
mais je pense que même ne serait-ce que la compile des points doit durer une demi-heure.
Oh oui,
ça doit être phénoménal. 5h29, c'est la plus longue finale de l'histoire de Roland-Garros, et la deuxième plus longue finale des tournois du Grand Chelem derrière Novak Djokovic, Rafael Nadal à l'Open d'Australie 2012. C'est vous dire.
Puis rien que la balle de match, elle témoigne complètement de la qualité des deux joueurs.
C'est clair.
Sinner qui sert parfaitement sur le revers, et un passing à la Rafael Nadal, un passing à l'Espagnol, d'Alcaraz qui s'écroule par terre.
Non, c'était très magnifique. Fort. J'ai presque un peu une pointe au cœur quand même pour
Sinner.
Pour Sinner, parce que
disait-moi le cœur.
Ouais. Mais c'est pas un peu, c'est quasi évident qu'il reviendra en finale de Roland Garros. C'est pas sa première et dernière tentative à Yannick Sinner. Voilà. Bon, en tout cas, c'est l'Espagnol encore une fois qui gagne à Roland. Un autre Espagnol survole complètement sa discipline. On termine avec un peu de sport mécanique et un mot de MotoGP. D'abord, Marc Marquez, actuel leader du classement pilote, a une nouvelle fois brillé et écrasé la concurrence sur le Grand Prix d'Aragon ce week-end. D'Aragon, peut-être. Je ne sais pas si. Mais je ne sais même pas si en espagnol on dit Aragon.
Je pense qu'on dit Aragon.
Mais bon, je vais dire la française. Aragon.
Aragon.
Un nouveau quadruplé, pole position, victoire sur le sprint samedi, victoire sur la course principale dimanche et meilleur tour en course, ce qui lui offre un petit matelas d'avance sur son frère Alex Marquez au classement. Il le devance de 32 points après 8 Grands Prix. L'Espagne qui n'a pas du tout souri aux Français Johan Zarco et Fabio Quartararo qui ont été contraints à l'abandon sur chute en début de course. C'est même le 3e abandon consécutif pour Quartararo qui n'est pas verni ces derniers temps alors qu'il avait assuré sur les 3 précédents Grands Prix avant Aragon la pole position. Comme quoi c'est mal payé tout ça. Pas de veine non plus pour finir pour le nordiste Adrien Fourmeau en rallye. Le Seclinois était très bien parti vendredi sur le rallye de Sardaigne en Italie en étant en tête du classement au terme de la 3e puis de la 5e spéciale jusqu'à cette crevaison sur l'ES8 qui a détruit toutes ses chances de victoire et permis à son compatriote et octuple champion du monde Sébastien Ogier d'assurer un énième succès en carrière, on ne les compte plus. Fourmeau termine le week-end avec un 0 pointé, le 2e consécutif après celui au Portugal. Il stagne à la 7e place au classement pilote avec 44 points. Ogier, quant à lui, se rapproche du leader britannique Elfyn Evans avec 133 points. Il ne compte plus que 19 longueurs d'avance sur le français, le britannique. Voilà, voilà. J'étais obligé de finir sur sport méca et voiture parce que ça me permet de justifier le lancement de ma musique. Parce que pour que tu saches, Charlie, je me casse souvent les méninges à chercher des musiques qui ont des corrélations, etc. Je cherchais des musiques avec la voiture, avec les sports méca, et j'ai pas eu beaucoup d'inspiration.
J'ai peur,
et ça m'a bien fait marrer de.
Harley Davidson.
J'ai eu peur. Ouais, c'est vrai.
Non, un peu de Supreme NTM. Des fois, il y a eu des propositions très très bizarres, j'avoue. Mais là, on part sur un classique, Ma Benz, pour régaler un peu tout le monde sur Radio Campus. On se retrouve juste après, évidemment. Le Campus Sport Club continue avec les news. À dans un instant. Original Wakaman dans la ville de Paris. Yalche joli, quand on veut sa chiche. Bien t'amuser avec un DJ top celebrity. Et c'est Wine Moja, carré sur le gros bas. J'aime les gals, surtout quand les gals mauvais. Hey ya, move up, love comme une loupe. Bouge au corps de la tête aux pieds. Et lâche ta posée, move up. Gal Wine, ton bandit, montre-leur que t'as pas peur d'exciter tous les bandits. Wine comme une vipère, si t'as le savoir-faire. T'inquiète pas, y'a pas de galère, je le dirai ni à ton père ni à ta mère. Ondule comme un ver de terre, jette-moi dans les yeux ton regard de panthère. Laisse-moi zoom zoom zeng dans ta Benz Benz Benz. Gal, quand tu whine, ton bon passe à mon gang gang gang. Laisse-moi zoom zoom zeng dans ta Benz Benz Benz. Gal, quand tu whine, ton bon passe à mon gang gang gang.
zoom zing dans ta Benz 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 gueule quand tu whines ton compas passe avant gang gang gang. Laisse-moi zoom zoom zing dans ta Benz 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 gueule quand tu whines ton compas passe avant gang gang gang.
Ça se passe à l'arrière du Merco Benz Benz Benz.
Ouais, du côté de Sané, bébé. Je garantis qu'il y a que des dingues, dingues, dingues.
Et ma mère, je suis la flèche que ton entre Jean va tirer à mort de Lufia. On vivra en notre troupe, toi et moi. Et ce soir, faut que ça brille, faut qu'on enquille. Je veux du freestyle. Que tu réveilles, tu stimules mon côté bestial. Mon bébé monte sur mon scène, scène et fond. Je la ferai façon, je te cueille. Putain, y'a que ça qui me rend jonc. À ton contact, je deviens liquide. C'est comme un trou intemporel. Bouge ton corps de fond. Regarde le long de tes hanches, je coule. Ondule ton corps, bébé, ouais, ok, ça roule. Je deviens insaisissable à ton contact, l'air est humide. C'est comme une étincelle dans ton regard habile.
Laisse-moi zoom, zoom, zing dans ta Benz, 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 gueule. Quand tu whines, ton compas passe avant gang, gang, gang. Laisse-moi zoom, zoom, zing dans ta Benz, 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 gueule. Quand tu whines, ton compas passe avant gang, gang, gang. Laisse-moi zoom, zoom, zing dans ta Benz, 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 gueule. Quand tu whines, ton compas passe avant gang, gang, gang. Laisse-moi zoom, zoom, zing dans ta Benz, 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 gueule. Quand tu whines, ton compas passe avant gang, gang, gang.
Ce soir, faut qu'on se fâche, bébé, faut qu'on se clash. Clairement, ouais, faut pas qu'on fasse ça bêtement. Donc mouf ton bali, fais bander les bandits. Puis ton bande a brandi, le temps sentira grandi. Tu sais ce qu'on dit, faut que ça glisse et puis que ça transpire. Ça me fout en transpire, faut plus que je respire. Tu te donnes moi, donne-toi, donne tout ce que t'as. Putain c'est fou ce que t'as, comme talent mais où ce que t'as. Après tout ça, après tout ça, je m'en fous. Je veux juste que tu puisses me kiffer jusqu'à l'eau. Donc vas-y monte sur mon scène, c'est une faux.
Laisse-moi zoom zoom zing dans ta Benz 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 gueule. Quand tu whines ton compas avant gang gang gang. Laisse-moi zoom zoom zing dans ta Benz 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 gueule. Quand tu whines ton compas avant gang gang gang. Laisse-moi zoom zoom zing dans ta Benz 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 gueule. Quand tu whines ton compas avant gang gang gang. Laisse-moi zoom zoom zing dans ta Benz 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 gueule. Quand tu whines ton compas avant gang gang gang.
Hey girl, si tu vois une merco noire arriver avec les
System, c'est ma Benz Benz Benz. Et on va zong zong zing avec Jaguar, Gorgon et Cool Shake.
SP baby
93 style. All bad boy, no respect.
Ma Benz, à l'instant sur Radio Campus Lille 106,6, on est de retour dans le Campus Sport Club pour parler, non pas de Mercedes, quoique on aurait pu parler de Formule 1, mais non, on va bien parler de sport et de plein d'autres événements. Après les résultats, il est l'heure de parler des news. Je vais chercher le petit jingle puisque c'est Baptiste qui va s'y coller dans un très court instant.
On parle justice, derby du Nord ou encore 24 heures du Mans. Tour d'horizon de l'actualité sportive dans le Campus Sport Club.
Erratum, je fais mon mea culpa. C'était un jingle c'est précédent celui-là.
C'est
donc
pas grave.
Donc c'est pas du tout le menu.
Non, on va pas parler derby du Nord, voilà. Bon, faut préciser. Non,
on va parler de dopage.
Pas maintenant. On va commencer d'abord. Non, on ferait pas un petit tour d'abord du mercato?
Bah oui, quand même.
Petit tour du mercato, c'est toujours important.
On n'est pas encore en juillet qu'on parle déjà mercato.
Mais il y a des très grosses infos.
Ah bah dis-nous tout.
Et la première, bah c'est Ryan Cherki. Qui a signé maintenant un contrat de 5 ans avec Manchester City. L'Olympique Lyonnais donc, va donc encaisser plus de 40 millions d'euros dans l'opération pour l'attaquant international, maintenant français. J'avais déjà une petite question pour vous. Que pensez-vous du coup du transfert de Cherki à City? Est-ce que c'est une bonne recul pour Guardiola? Est-ce que c'est Guardiola compatible?
C'est super. Moi, dans un effectif aussi étoffé que City, c'est super compliqué à juger, je pense. Je trouve que déjà le point numéro un, avant même du joueur et du profil de jeu, c'est le montant. Je trouve que Lyon, du coup.
40 millions d'euros.
Bah, c'est Lyon, bien pour Lyon. Lyon, franchement, Lyon s'en sort très bien.
Bah, bien sûr.
Donc, peut-être que la carte internationale, juste avant de le vendre, je ne sais pas si ça a joué comme un argument de. Ah, alors attends, parce que oui, peut-être que.
Après, pour donner un argument aussi, City sort souvent les gros chèques.
Oui.
On l'a vu avec Kuzanov, c'était le même montant, 40 millions.
Mais vu la situation de Lyon, ils auraient pu dire non, on va jouer le plus au rabais possible. Et Cherki aurait refusé tous les autres clubs. Donc,
Mais c'est vrai que moi, quand j'ai vu la prestation contre l'Espagne, je me suis dit. Ah, c'est une bonne chose pour Lyon, je me suis dit, parce que je me suis dit, il fait une super performance juste avant le recrutement. Mais sinon, pour répondre à ta question, moi, j'ai pas trop compris ce recrutement. Je suis super content, j'aime beaucoup Cherki, donc je suis super content pour lui, c'est une super opportunité. Mais en fait, il leur manque un milieu de terrain. À City, ils perdent De Bruyne, ils ont Rodri qui est toujours blessé, ils ont besoin d'un milieu de terrain. C'est déjà blindé en attaque. Ils ont recruté Marmouche l'année dernière, etc. Donc moi, je comprends pas trop le recrutement Cherki et j'espère surtout qu'il aura du temps de jeu. C'est surtout ce que j'espère pour lui, parce que c'est bien de signer dans un grand club, mais s'il a pas de temps de jeu, c'est dur.
Tout porte à croire que pour moi, Cherki a l'air plus à l'aise au cœur du jeu.
Ouais.
On voit aussi avec des gens essayer en 10, en tout cas être un peu en électron libre, à voir si Guardiola va s'adapter à un dispositif où il veut un électron libre justement derrière Haaland.
Peut-être changer son système de jeu aussi.
Oui, mais j'ai presque peur qu'il le cantonne à un côté.
Eh ben, c'est ce que je me suis posé comme question. Moi, je me suis dit aussi, parce que vraiment, leur besoin dans le milieu, c'est vraiment un besoin nécessaire. C'est plus un besoin. Est-ce qu'il voudrait pas le faire jouer en 8, peut-être ? Je sais pas.
Je sais pas du tout.
Non. Bon. Ouais, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas de rumeurs niveau milieu. Bon, on continue du coup Manchester City toujours avec, pareil, une officialisation. Toujours pas un milieu, désolé Charlie. C'est le transfert du latéral gauche de Wolverhampton, Riyad Aït-Nouri, qui a été officialisé donc ce lundi. Il arrive en provenance de Wolverhampton contre environ 50 millions d'euros. Donc là encore une très grosse somme. Du côté d'un autre club anglais, on va passer par Chelsea, qui a officialisé l'arrivée du jeune défenseur de Strasbourg, Mamadou Sarr. Son contrat donc est signé jusqu'en 2033. Pour son... Là, c'est la prison.
J'aurais deux enfants.
Ils l'ont condamné.
Je serais père.
En espérant qu'il prête quand même un peu, un tout petit peu. Mais connaissant Chelsea, je pense qu'ils vont essayer. Chelsea cherche aussi un portier la piste que Mike Maignan semble de plus en plus froide chez les Blues. Ce matin, la presse anglaise comme italienne a révélé que le dossier Mike Maignan à Chelsea était dans une impasse. En effet, les Blues ne voulaient pas offrir plus de 15 millions d'euros pour le joueur, son contrat donc jusqu'en 2026, quand l'AC Milan en attendait 25 millions voire 20 millions selon les divers échos. Quelques heures plus tard, RMC Sport annonce que le gardien numéro 1 de l'équipe de France ne signera pas chez les Blues aujourd'hui, avant la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Donc ce dossier n'est pas forcément terminé, même s'il est en mauvaise posture. Mais si jamais les Rossoneri ne parvenaient toujours pas à s'entendre avec Chelsea, Maignan ira au bout de son contrat et du coup s'en ira libre, assurent les confrères de la presse française. On continue donc pour les clubs de Ligue 1 maintenant avec l'Olympique de Marseille qui multiplie les pistes. Après avoir trouvé un accord avec le milieu de terrain international anglais, Angel Gomez en fin de contrat avec le LOSC, oui Charlie, Mehdi Benassia et le board marseillais travaillent sur le dossier menant au défenseur international marocain de West Ham, Naïef Aguerd. Des discussions ont d'ores et déjà eu lieu avec l'entourage du joueur. En plus de cela, le club phocéen avance sur deux autres dossiers défensifs, à savoir Nelson Semedo, qui a plutôt fait une bonne finale aussi en Nation League, en fin de contrat avec Wolverhampton, pour renforcer donc le côté droit de la défense marseillaise, mais aussi pour apporter de la qualité sur le côté gauche, avec un certain Lensois, Facundo Medina. Du côté des départs pour le club d'Ansois, en plus de la perte de Facundo Medina, le RC Lens pousserait vers la sortie Florian Sotoca, selon la Voix des Sports, même si rien n'est toujours sûr. On continue encore par un transfert définitif et encore d'un Français. Clément Lenglet et le FC Barcelone ont trouvé un accord pour la résiliation de son contrat. Le défenseur international français rejoint définitivement l'Atlético de Madrid jusqu'en 2028. Et du côté du rival madrien, on savait que le défenseur international espagnol Dinius Yusen allait rejoindre le Real en provenance de Bournemouth, mais il a été officiellement présenté cette fois-ci sous ses nouvelles couleurs. On continue toujours du football, mais avec une très mauvaise nouvelle, surtout pour le club de la Paillade. L'ancien joueur de Montpellier et actuel coordinateur de l'Olympique Lyonnais, Daniel Congré, a été retrouvé grièvement blessé d'un coup de couteau près du cœur lundi à son domicile. Une enquête policière a été ouverte alors que son état de santé serait stabilisé. Alors, selon nos infos, il aurait tenté de mettre fin à ses jours. Donc, d'après le parquet de Montpellier, au journal Le Parisien, il se trouve pour l'instant dans un état stable au CHU de Montpellier. En parlant de blessures, même là, c'est beaucoup plus léger. Là, faut faire quand même
toute autre mesure.
La toute autre mesure. avec la blessure du peut-être futur Ballon d'Or et vainqueur de la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé. Le Français a été touché à la cuisse lors du rassemblement avec l'équipe de France. Il devait être forfait pour le début de la Coupe du Monde des clubs. Il va néanmoins effectuer sa rééducation aux États-Unis avec le reste du groupe parisien.
Ouais, c'est pas plus mal qu'il ait cette excuse pour souffler aussi quand même le bonhomme. Je pense qu'il n'est pas indispensable au PSG à la Coupe du Monde des clubs. Ils ont d'autres.
Non, ils ont beaucoup d'autres. On l'a vu, de toute façon, le banc était important. Ouais. On en a parlé.
Les internationaux français, s'ils pouvaient souffler pour nous, ça serait bien.
On continue avec de la F1.
Où ça va aller vite.
Ouais. Formula One a dévoilé ce mardi le calendrier de la saison 2026 avec à nouveau 24 Grands Prix. Comme attendu, le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola disparaît au profit de celui de Madrid placé en septembre. Les courses à Miami et au Canada se suivent désormais, même si elles sont séparées par deux week-ends sans course. Ça veut dire que, comme évoqué au moment de la prolongation jusque 2031, le Grand Prix de Monaco se disputera le premier week-end de juin. On continue du coup maintenant avec de la petite balle jaune. Interrogé hier par la BBC, Andy Murray, donc, qui n'entraîne plus Novak Djokovic depuis une courte collaboration, a affirmé qu'il était prêt à coacher de nouveau. Il n'a pas manqué de remarquer l'impact positif de son expérience avec, selon lui, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Il a expliqué au micro de la chaîne anglaise « Je pense que je le ferai à nouveau, mais je ne pense pas que cela arrivera immédiatement. » Alors moi, j'avais encore une question pour vous. Quel prochain joueur pourrait coacher selon vous Andy Murray à l'avenir, court ou lointain?
C'est une question super large.
Ah oui, c'est une question très très large et difficile à répondre.
Il faut coacher un joueur qui déjà n'est plus d'entraîneur, et actuellement sur le circuit il n'y en a pas beaucoup. Il y a Djoko du coup qui n'a plus d'entraîneur depuis avant Roland Garros, avec sa séparation justement de Murray, mais on n'a pas de joueurs qui sont sans entraîneur. Donc moi je pense rien. Pourquoi pas un petit Gabriel Diallo, jeune Canadien, qui a beaucoup de qualités. Le fait qu'il soit très jeune, l'expérience d'Andy Murray, qui fait partie du Big Four, ouais. Pourquoi pas.
Je le vois bien se tourner vers un jeune.
Ouais, bien sûr. C'est
peut-être forcément plus l'éclosion d'un joueur qu'un joueur confirmé, affirmé.
Parce que c'est vrai que cette collaboration avec Novak Djokovic a été plus jolie sur le papier que sur le terrain. C'est-à-dire que.
Ouais. Là, on a aimé l'image. Mais...
Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il a à lui apporter? Il a tout gagné, Djoko, et bien plus que Murray. Donc, un petit peu incompréhensible. Mais je te rejoins, Adrien, sur ce point-là, qui doit se tourner vers un jeune joueur. Et moi, je pense à un Gabriel Diallo.
Ok, c'est un beau prono.
Beau prono, ouais.
Cote à 20.
Cote à 53.
On va parier maintenant.
On finira, Baptiste, CNews, sur de l'Ovalie, s'il te plaît. Ouais.
De l'Ovalie avec Théo Costosek qui annonçait mettre un terme à sa carrière à seulement 25 ans. Le centre passé par le Racing 92, l'Aviron Bayonnais et depuis 2022 le RC Van a annoncé sur les réseaux sociaux mettre un terme à sa carrière. Il dit donc après plus de 20 ans à jouer avec ce ballon ovale, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis contraint de mettre un terme à ma carrière de joueur de rugby professionnel. Et c'est aussi une mauvaise nouvelle pour le Stade toulousain. Selon l'équipe et RMC Sport, Ange Capozzo, évacué sur civière lors de la défaite du Stade toulousain face à Perpignan, souffre d'une fracture du péroné de la jambe gauche. Sa saison semble donc être terminée pour lui, qui avait déjà manqué la phase finale pour cause de blessure.
Merci beaucoup Baptiste pour ce beau petit tour d'horizon des news. On va profiter maintenant de quelques minutes dans le Campus Sport Club, comme d'habitude, avant de marquer une petite pause, ne vous inquiétez pas. On va un peu débattre ensemble, est-ce qu'il y a vraiment des débats sur les sujets du Campus Sport Club? Pas toujours, des fois on arrive à plutôt bien s'entendre. Alors Charlie va vivre l'expérience du débat ce soir. Si tu reçois une bouteille d'eau de la part de Baptiste, c'est tout à fait normal. C'est des choses qui arrivent. C'est pas
une gourde d'eau.
Non, il y a pas. Non, ne porte pas plainte, quoi, s'il te plaît. Non. Sinon, on aurait des sacrés problèmes.
On est souvent d'accord avec.
Les gars inventent des histoires pendant les soirées à la radio. C'est ça le pouvoir de pas être filmé ou de pas savoir ce que
c'est
les
vrai.
Gens. Bon, c'est beau. En tout cas, débat du soir, parce que je suis perdu dans mes blagues. Sur, je l'ai annoncé tout à l'heure, les finales NBA. On dit les finales, oui, ça paraît bizarre. Les gens diraient que c'est une finale, mais on dit les finals.
Yes.
On dit les finales NBA, c'est pour aussi expliquer aux non-initiés. La question que je me posais pour ce petit débat du soir, c'est jusqu'où vont tenir les Indiana Pacers?
Logique.
Sous-entendu, voilà, que sur le papier, on a une très belle finale avec un surprenant candidat de l'Est qui a remporté la conférence S, qui sont les Pacers de Indiana, d'Indianapolis, avec notamment, donc, j'ai souligné Tyrese Haliburton ou Pascal Siakam en tête d'affiche. Pour l'instant, Indiana est à un partout dans la série grâce à ce tir, comme je l'ai dit, à 3 dixièmes de seconde, voilà, et un poil de cul de chance dans le match 1. Oklahoma City qui a très bien répondu dans le match 2 en dominant à domicile les Pacers. On se retrouve à un partout. On va se diriger maintenant du côté d'Indiana pour la suite de la série avec deux matchs là-bas. Donc, ma petite question, jusqu'où peuvent tenir bon les Indiana Pacers? Ça sent un peu le scepticisme sur un moment donné ça va craquer, à moins que l'un de vous les voit champions.
Non,
je voulais avoir votre avis là-dessus.
Moi, je suis pas du tout sceptique quant à la suite de cette série. C'est-à-dire que pour moi, pour faire un parallèle catastrophique, c'est un Sinner Alcaraz. C'est-à-dire que c'est une équipe tellement talentueuse. J'en parle parce que c'est vraiment une équipe que j'apprécie depuis des années, que je suis. J'aime beaucoup leur type de jeu. En fait, c'est vraiment une équipe qui joue très collectif. Y a moins de stars. C'est-à-dire que on avait le joueur le plus overrated, on a Pascal Siakam mais qui finit MVP quand même des conférences, voilà. En fait, c'est vraiment, il y a plein de petits noms, alors qu'à côté on a Shai Gilgeous au-dessus de tout le monde, Chet Holmgren pourquoi pas, et en fait cette équipe peut aller très loin parce qu'elle joue collectif, elle joue, il n'y a pas de grande star, donc pourquoi est-ce qu'elle n'irait pas aussi loin? Elle a déjà prouvé qu'elle a pu sortir des équipes exceptionnelles qu'on voyait déjà en fait aller au bout justement de ces finales, donc moi je les vois peut-être dans un game set à la fin aller au bout, quoi.
Ouais,
bah en fait là ils prennent, en plus ils ont pris l'avantage comme tu l'as répété tout à l'heure,
d'être capable de gagner sur le parquet d'OKC dès le début de la série, ça peut aussi afficher clairement les ambitions, et que sur le papier un match de basket en tout cas à ce niveau là c'est largement prenable d'un côté comme de l'autre. Après, voir ce que Oklahoma ne roule pas sur Indiana.
Parce que tu parles d'un, pardon Mathieu, tu parles d'un petit poil de cul de chance sur ce shoot d'Haliburton. Je parlerai d'un poil de cul d'audace et de génie dans cette équipe. Parce que vraiment, ils ont toutes les qualités pour aller au bout. Et Baptiste,
en moi en fait j'ai peur que ça soit ça, le petit plus de chance qui finisse par trahir du coup les Pacers, sachant qu'au match 2 en plus Oklahoma clairement mené, donc je pense que ça peut craquer, et honnêtement je vois vraiment dès le match 3 Oklahoma prendre les devants, surtout avec un Shai Gilgeous-Alexander qui a été exceptionnel tout le long de la saison. Voilà, le match 5 ça s'est joué à rien du tout, je pense que s'il n'y avait pas eu ce shoot à 3 dixièmes, bon ça ferait 2-0. Après peut-être que Charlie, t'as peut-être raison, peut-être qu'au match 3 s'il y avait eu 2-0, peut-être que les Pacers auraient pu revenir, et voilà, on aurait parlé peut-être d'un, comme tu dis, d'un Sinner Alcaraz entre guillemets, avec des gros guillemets, mais moi je vois clairement les Oklahoma City.
J'ai un tout petit peu à argenter les statistiques des deux premiers matchs, évidemment. Alors, étrangement, pas étrangement, mais je me suis rendu compte en regardant les statistiques principales, en n'allant pas fouiller des choses très tactico-techniques. Si je prends juste des gros points importants du basket, sur le match 1 perdu par Oklahoma City, en termes de tirs tentés, on note 98 tirs pour Oklahoma contre 82 pour Indiana. Tu tentes 16 tirs de plus sur une rencontre, c'est énorme. Ils sont presque à 100 tirs tentés.
C'est ça qui est bien.
Tu finis par avoir quasiment le même scoring à la fin. Et les pertes de balles sont de 7 pour Oklahoma contre 25 pour Indiana. Sur le papier, tu m'affiches ces stats-là, tu dois te dire que l'écart doit être de 20 à 30 points minimum. C'est pas possible autrement.
En fait, c'est justement en
voyant. C'est ça qui est assez impressionnant. Et là où sur le papier, sur le match 2 qui est gagné 123-107 par Oklahoma, je suis retourné voir les stats. Et les statistiques sont quasiment toutes à l'équilibre. C'est fou.
C'est justement que quand tu parlais tout à l'heure de ce coup de chance, moi je te parle vraiment de... En fait, c'est un plan de jeu. C'est-à-dire que Indiana, c'est ça. Indiana, c'est une équipe qui arrose. Indiana, c'est une équipe qui va perdre beaucoup de ballons.
En tout cas, qui ne s'arrête jamais.
Qui, on l'a vu, match 1, ils sont menés largement. Ils sont menés largement, ils sont pas censés remonter.
C'est la première des 1183... Il y a eu 1183 situations dans l'histoire des playoffs NBA où une équipe était menée de 9 points à 3 minutes du terme en playoff, en finale NBA. Et c'est la première fois, c'est la première des 1183 voilà. situations de l'histoire où l'équipe aussi, gagne. Ouais.
C'est pour ça que Baptiste, fou. Quand tu dis, je pense que maintenant ils vont un petit peu se faire rouler dessus ouais, par un grand chez Giljuice. Mais... On a déjà un grand chez Giljuice et en fait on a vu dans cette série, à chaque fois, on a eu une équipe. On a eu Minnesota, on parlait d'Anthony Edwards. On a eu Denver, on parlait de Jokic. Ouais. On a eu Boston, on parlait de Tatum. Et c'est des équipes qui sont plus en lice. C'est des équipes qui sont plus en lice parce qu'on veut se reposer sur une star, on veut se reposer sur un joueur. On l'a vu, c'est dans tous les sports pareil. Le foot, c'est pareil avec le PSG. C'est plus des stars, c'est un collectif. Et je, franchement, j'ai hâte de voir. Suivez bien les auditeurs parce que ça va être des finales très très intéressantes.
Et en termes d'équilibre, je trouve aussi, je me suis noté les 5 meilleurs scores de chacun des deux matchs. Sur le deuxième match, ils sont tous. Enfin, en tout cas, il y a 5 joueurs de chaque côté qui sont à 14 ou plus. Ce qui n'est pas anodin en finale NBA. Du côté d'Indiana, les 5 meilleurs marqueurs sont entre 17 et 14 points. Et que les 5 meilleurs marqueurs d'OKC est entre 34, parce qu'il y a chez Giggles dans l'eau, mais sinon est entre 20 et 15 points. Ça montre les vraies forces collectives de ces deux équipes.
C'est ça.
Mais d'un côté, tu as quand même l'atout chez Giggles Alexander, MVP de saison régulière pour le souligner
mérité,
quand même,
complètement
qui
mérité.
Pour l'instant tient très bien son rang. Oui, bien on sûr. Lui espère aussi pas de pépin physique.
Non.
Est-ce qu'en cas de coup de moins bien de chez Giggles, Indiana va vraiment renverser la série?
En fait. Un coup de moins bien de chez Giljuice, ça peut aussi amener...
Ah d'accord, je suis à 28 points, pardon. J'ai mal joué aujourd'hui.
Non, mais un coup de moins bien, bien sûr, ça les mettrait, pour le coup, vraiment dans le mauvais, ça les mettrait dans le mal. Mais ça n'empêche pas qu'en fait, il y ait peut-être vous savez, une certaine énergie...
de vestiaire,
ouais, bien sûr. Voilà, c'est ça, ouais, qui pour gagner pour lui. Il a tout fait, donc essayer de gagner pour lui... Il le mérite complètement son titre d'MVP. Mais je vous invite vraiment à regarder du côté des Pacers d'Indiana. En dehors de ces deux joueurs qu'on nomme, Siakam et Haliburton, des joueurs comme Aaron Nesmith, Miles Turner, que ce soit défensivement ou offensivement. Parce que des fois, ce n'est pas des Haliburton qui vont mettre énormément de shoot à 3 points exceptionnels. Lui, il peut justement mettre, comme au Game 1, le point important du match en ayant fait un match catastrophique. Alors que eux, à côté, c'est des mecs assez réguliers qui vont shooter à 3 points quand ils sont ouverts. Et en fait, c'est des points plus que cruciaux. Donc,
encore plus à ce moment-là de la saison.
Ouais.
On se dirige du coup pour finir ce débat. On est un peu obligé, le temps nous l'impose. Les Pacers qui vont avoir deux matchs à domicile dans cette série. Pour le coup, les Pacers, pour l'instant, depuis le début de ces playoffs, c'est 2 défaites en 8 matchs à domicile. C'était un match, les matchs 3 contre Cleveland et contre les Knicks. Alors qu'ils menaient déjà 2-0, on peut leur accuser le coup, un petit relâchement, on a l'avance. Mais bon, ça signe quand même le niveau des bonhommes. Et on est plutôt bon là-dessus.
Oui, typiquement, ils sortent Cleveland. Cleveland et OKC, c'était les deux équipes un petit peu. C'était les deux équipes invaincues toute la saison.
C'est les meilleures équipes de chaque côté.
C'est exactement ça. C'était les deux meilleures équipes de toute la saison. Et il y avait des Donovan Mitchell, des Darius Garland, et ils leur ont roulé dessus.
C'est fou. Voilà. Bon, petite pause musicale, messieurs. Reprendre notre souffle, notre salive. Vous marquez un petit temps de pause, vous qui nous écoutez sur Radio Campus Lille. J'ai cherché aussi une petite musique en lien avec le basket. Un petit truc cool, sympa, un peu de Katy Perry. Avec Swish Swish. Je sais pas si ça vous parle.
Pas du tout.
Si, t'adores Katy Perry, Baptiste.
Moi j'adore, mais je le dirai pas.
Ah oui, ok, pardon.
Chanson secrète.
On est en direct, excusez-moi.
Secrète.
Allez, à tout de suite.
Karma's not a liar. was to it. Funny, my name keeps coming at your mouth, 'cause I stay in and lay him up like swish, swish, bish. Another one in the basket.
Young Money.
But they don't know what is what. They just know what is what. But they don't know what is what. They just strut. What the fuck?
Pink Ferragamo sliders on deck. Silly rap beats just give me more checks. My life is a movie, I'm never offset. Me and my amigos, no, not offset. Swish, swish, ah, I got them upset. But my shooters, I make them dance like dubstep. Swish, swish, ah, my haters is obsessed. 'Cause I make M's, they get much less.
Don't be trying to double back. I despise you. All that fake love you've shown couldn't even disguise you.
Yo, yo. Red, red, Nikki getting tan. Mirror, mirror, who's the fairest bitch in all the land?
Damn, man, this bitch is a stan. The generous queen that kissed a fan. Ask goodbye, I'ma be riding by. I'ma tell my big Z, that's the guy. A star's a star, the heart, the heart. They never thought the switch guard would take it this far. Get my pimp cup, this is pimp shit, baby.
I only rock with Queen, so I'm making hits with Katie.
Swish, swish, bish. Another one in the basket.
Swish Swish de Katy Perry avec un featuring Nicki Minaj, j'ai oublié de le préciser. Il y a un instant sur Radio Campus Lille 106,6. Vous êtes bien de retour, on est bien de retour plutôt à l'antenne pour parler de sport dans le Campus Sport Club. Toujours en compagnie de Baptiste et Charlie. Après Baptiste, c'est au tour de Charlie de se coller la suite de cette émission. C'est tout de suite l'heure des immanquables et du baptême du feu, donc pour notre petit nouveau. Après hier, place à demain et prochain rendez-vous sportif de la semaine dans les Immanquables. C'est le sport incontournable, c'est souvent par lequel on commence les Immanquables. Charlie, on va parler football, mais on va partir très très loin de l'autre côté de l'Atlantique d'abord.
On va parler football, on va partir très très loin puisqu'on va du côté de l'Amérique du Sud, puisque cette nuit, dans la nuit de ce mardi jusqu'au mercredi, l'Argentine affrontera la Colombie et le Brésil affrontera le Paraguay dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde de 2026. Alors je vous rappelle rapidement le programme, les 6 premiers se qualifient directement pour la Coupe du Monde et le 7e passe par les barrages. Alors l'Argentine et le Brésil sont bien placés, mais tout reste ouvert derrière. Attention, le Paraguay est déjà 3e. Mais le plus important, c'est le début de l'Euro Espoir U21 pour nos Bleus et l'équipe de France affrontera le Portugal. C'est une belle affiche dans ces phases de groupe, mais avant cela, un autre match sera à suivre dès 18h, Espagne-Slovaquie. Donc l'objectif sera évidemment de sortir dans les 2 premiers du groupe pour rallier les quarts de finale. Et l'intégralité de cet Euro moins de 21 sera à suivre sur Beansport. À l'affiche encore de l'Euro 21, avec notamment l'Angleterre, l'Allemagne et les Pays-Bas qui joueront tous à partir de 21h jeudi. Et deuxième match de nos Bleuets, samedi. Ils affronteront la Géorgie, donc c'est un match dans leur corde. Et puis on leur souhaite de gagner cela. Pour les fans de foot, ou plutôt même de divertissement, je parlerai. C'est dans la nuit de samedi à dimanche, 2h du matin précisément, que débutera la Coupe du Monde des clubs qui se déroule aux États-Unis et qui a fait tant parler. L'Inter Miami ouvrira le bal face au club saoudien Al Ahly. Mais si vous n'êtes pas tenté par cette affiche, ce qui peut se comprendre. Des beaux matchs sont programmés notamment avec un remake de la phase de ligue en Ligue des Champions PSG-Atlético Madrid. Alors ce sera l'occasion de voir un petit peu notre Paris Saint-Germain prendre sa revanche sur le bus espagnol de Diego Simeone qui avait tenu le PSG en échec 2-1, on se souvient, en novembre dernier. Ces rencontres sont à suivre dès 21h sur DAZN.
Un petit prono, le club qui va gagner, Baptiste. Cette Coupe du Monde des clubs.
C'est dur. Bah, logiquement, le favori, c'est le Paris Saint-Germain. Après la Ligue des Champions, c'est dans la continuité. Voilà.
Bon, je pense que...
bah, je vois pas un club des États-Unis ou un club d'Arabie Saoudite, malheureusement, s'imposer.
Ok.
Je pense que le PSG la gagnera pas parce que, comme on l'a dit, Dembélé, on a plein de joueurs qui vont souffler.
Ouais, ils ont tellement un effectif profond, enfin étoffé que. Moi, bon, ça me choquerait pas de les voir gagner.
On va découvrir, c'est nouveau. C'est aussi tout nouveau tout ça.
Par exemple.
Après le football, du deux roues.
Du cyclisme. La quatrième étape du critérium du Dauphiné, on en parlait tout à l'heure dans les résultats. Elle aura lieu demain, mercredi, à 14h15. Pour l'instant, c'est l'Espagnol Ivan Romeo, comme tu l'as précisé, Adrien, de l'équipe Movistar qui garde le maillot jaune. Et toutefois, il est suivi de près, à 17 secondes, par notre Français Louis Barre, de l'équipe Intermarché Wanty. Donc c'est évidemment une course à suivre de près, et toute la semaine. Mais si vous deviez en voir qu'une, retenez surtout la 7ème étape, samedi 14 juin, l'étape reine de ce critérium de Dauphiné. Un parcours taillé pour les grimpeurs, avec plus de 4000 mètres de dénivelé quand même, ça va faire mal aux jambes, et on sait que c'est là que les cadors du général vont devoir se dévoiler. Donc petit clin d'œil à notre petit français Romain Bardet, enfin notre petit français, notre vieux français maintenant. C'est un terrain parfait pour un coureur comme lui, parce qu'il connaît par cœur ses routes alpines, et à 34 ans, il dispute probablement même sûrement, l'un de ses derniers dauphinés. Donc on se souvient de ses grosses échappées les années passées, et ce serait beau de le voir à l'attaque ce samedi, avec sûrement une ambiance à la hauteur dans ces Alpes françaises.
Fou, et au Dauphiné. On reste sur du français, d'ailleurs. On parle un peu de petite balle jaune. Il y en a qui jouent cette semaine.
Petite balle jaune, tennis, c'est après Roland-Garros que commencent les premiers tournois sur gazon avant Wimbledon. Alors Stuttgart et Hertogenbosch ouvrent le bal, deux ATP 250 disputés par les hommes. Et on a quelques Français engagés du côté de Stuttgart, notamment avec Coco Moutet, Pierre Hugerbert, Arthur Rinderknecht, Quentin Lys et Giovanni Pecci-Péricard, qu'on va devoir surveiller. Ils ont tous passé leur premier tour. Mais toutefois, je vous propose qu'on garde un œil sur Hugo Humbert, présent du côté d'Hertogenbosch, lui, car bien que pas au top en ce moment, hein, suite à quelques pépins physiques, on connaît sa qualité de jeu sur gazon. Ce qui est selon moi aussi un petit peu sa surface de prédilection. Donc gardez un œil sur lui. On va parler basket. Donc on a déjà parlé basket. Plus précisément Betclic Elite. On l'a dit tout à l'heure, Lyon-Villeurbanne s'est fait écarter face à Monaco. Monaco qui rejoindra le Paris Basket sur un meilleur des 5 matchs. L'intégralité des finales sera retrouvée sur DAZN. La première finale se jouera dimanche 15 à partir de 16h30. Et pour les left ou plutôt les couches tard, le Game 3 des NBA Finals vous donne rendez-vous à 2h30 du matin. Les Pacers vont recevoir OKC pour la première fois dans cette série. Le Game 4 se jouera quant à lui ce samedi à 2h30 également. Vous pourrez tout suivre sur Beansport.
Ouais, il faudra avoir des belles poches sous les yeux.
Ah ouais, c'est ça. Ou alors se lever tôt.
Ou se lever très tôt. Ouais, non, bon, on verra. Il y a les replays pour ça. Du rugby, de l'Ovalie aussi.
De l'Ovalie, c'est les quarts de finale du top 14. Vendredi 13, Bayonne reçoit Clermont dans un stade Jean Daugé qui s'annonce encore une fois bouillant. Le vainqueur pourrait bien croiser la route du stade toulousain par la suite. À suivre sur Canal+. Et toujours sur Canal, le samedi à 18h, Canal Plus nous diffusera l'affiche Grenoble-USAP dans le cadre des relégations. Est-ce que Grenoble montera en top 14 ou est-ce que l'USAP entamera une sorte de descente aux enfers en Pro D2? Réponse samedi 18h. Un petit peu de mécanique pour nos férus de sport auto. Prenez votre mal en patience car votre tour viendra avec les 24 heures du Mans qui débuteront ce samedi à 16h. Mais aussi, et enfin, dernier jour du week-end, vous pourrez suivre la Formule 1 avec le Grand Prix du Canada qui débutera à 20h, course à suivre sur Canal+, et dernière course avant la tournée européenne estivale.
Ça promet tout ça, il y a de quoi faire.
Ça promet, c'est une semaine bien remplie.
Il n'y a plus Roland-Garros, mais il y a de quoi se servir.
Le sport ne s'arrête jamais.
Baptiste, tu vas te délecter de quoi toi, cette semaine, maintenant que tu es en vacances? Ah oui, pardon, il faut encore que je t'allume.
Je vais regarder quoi? Bah, je pense que c'est pas étonnant. Je vais regarder le critérium du Dauphiné, bien sûr, pour voir notre Bardet national à l'honneur. Ça va me faire pleurer, je vais avoir les larmes quand je vais le voir partir. Un peu trop, mais c'est pas grave. Et sinon, Coupe du Monde des clubs, je pense, parce que ça peut être une une compétition intéressante. Je vois que tous les clubs commencent à s'investir dans le sujet. Donc, pourquoi pas Coupe du Monde des clubs ? C'est tenté par ça.
Peut-être un petit a priori sur les joueurs alignés. Est-ce que c'est l'occasion de faire tourner aussi ? Ouais, parce que
je pense que
saison marathon.
On prenait l'exemple du Paris Saint-Germain tout à l'heure. Moi, je pense que ça peut être l'occasion justement de redonner du temps de jeu à des Warren Zaïre Emery, des jeunes joueurs du PSG, des Mayulu. Mayulu qui a fait une bonne campagne européenne. Deux buts en quatre matchs et but en finale. Donc, prestigieux. Prestigieuse entrée, prestigieuse campagne européenne pour Mayulu. Mais je pense que voilà, des jeunes joueurs comme eux. Auront leur place, ça peut être une bonne chose. On voit que on parle de divertissement avec effectivement des clubs qui viennent de partout, mais là, premier match de cette Coupe du Monde des clubs, on a le PSG qui affronte l'Atlético de Madrid, qui est un énorme club. Donc,
ça va être sympa.
Très sympa.
Suivre quand même, à suivre et tout ça sur ta zone et TF1. Merci beaucoup Baptiste, merci Charlie pour cette première.
Merci à toi.
Merci à vous, merci à celles et ceux qui nous ont écoutés jusque-là. Il est bientôt minuit, on vous laisse avec les musiques de la nuit sur Campus Lille, et d'ici là, je vous dis, sportez-vous bien.
Sportez-vous bien.